Radio Okapi.
Le journal Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être nombreux à l'écoute de cette édition du journal. Commençons par le titre. Face au corps diplomatique, ce samedi 18 janvier, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé sa volonté de résoudre pacifiquement la crise qui oppose la RDC au Rwanda. Mais dialoguer avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais, a-t-il martelé. Le chef du secteur de Walendupiti appelle à la reddition des combattants de la Codeco quelques jours après celle de certains membres du groupe armé Zaïre. Selon lui, il est temps de restaurer une paix durable en Ituri. Face au regain de l'insécurité dans les grandes villes du Haut-Katanga, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi s'engage à la recherche des solutions. Monseigneur Fulgence Muteba, vous l'entendez dans ce journal, il est notre invité. Hier, à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a déclaré devant le membre du corps diplomatique accrédité en RDC lors d'une cérémonie d'échange de vœux au Palais de la Nation. Le gouvernement de la RDC reste déterminé à défendre l'intégrité de son territoire et à protéger ses citoyens contre toute forme d'agression, réaffirmant sa volonté de résoudre pacifiquement la crise avec le Rwanda. Le président a rejeté les nouvelles provocations de Kigali et toute tentative extérieure de légitimer le groupe rebelle M23. Billy Ivan Lutumba nous en parle.
Pour le chef de l'État congolais, il est temps que les principes de responsabilité et de justice prévalent face à cette guerre. Son gouvernement continue à renforcer les capacités opérationnelles de ses forces de défense. Toutefois, rappelle-t-il, mettre fin au conflit armé passe aussi par une stratégie intégrée de développement de justice sociale et de gouvernance inclusive. Une inquiétude cependant concernant le processus de Luanda.
Le processus de Luanda, malgré les obstacles, reste une opportunité que nous continuons de privilégier avec détermination, dans un esprit sincère mais lucide. Cependant, les provocations continuent de Kigali. Ces violations répétées des accords et son soutien actif au M23 compromettent la crédibilité de ce processus.
Toujours dans ce cadre, Tshisekedi ne désarme point.
Permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international.
L'apport de la SADC et Samidi Ersi est un exemple concret de l'efficacité de la coopération régionale pour faire face aux défis sécuritaires, déclare Tshisekedi devant ses hôtes.
Restons à Kinshasa. Dans un communiqué signé ce samedi 18 janvier, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux informe l'opinion publique qu'à la suite de l'injonction donnée au procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu, le 10 janvier, le ressortissant chinois impliqué dans l'exploitation illicite de minerais ainsi que leurs complices locaux ont été condamnés, notamment par la confiscation des minerais. Il annonce que des actions sont en cours pour poursuivre la lutte contre l'exploitation illicite des minerais et la contrebande. Restons au ministère de la Justice pour prendre cet autre communiqué daté du 18 janvier à la suite du rapport transmis par l'Inspection générale des finances sur la gestion de la Banque centrale du Congo de 2018 à 2020. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a instruit le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe afin d'ouvrir un dossier judiciaire à charge de responsables des détournements des deniers publics révélés par le dit rapport, notamment celui de la somme de 315 612 000 $ américains résultant des avances fiscales consenties de 2012 à 2020 par la GECAMINE à la République. À ces jours, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis à charge des personnes incriminées et transmis aux organes de justice de plusieurs pays pour les appréhender. Des interpellations vont être lancées dès la semaine prochaine à l'égard de toutes les personnes impliquées dans ces actes qui se trouvent au pays. Ce journal se poursuit sur Radio Kapi. Parlons sécurité à présent. En Ituri, trois jours après la reddition de certains membres du groupe armé Zaïre, les appels se multiplient pour inciter d'autres mouvements armés à déposer les armes. C'est samedi, le chef du secteur de Walendu Piti, une zone où la CODECO est très active, a exhorté ces groupes armés à suivre l'exemple des Zaïre pour instaurer une paix durable dans la province. Martial Kiza, Biamungu.
La pacification de l'Ituri est encore possible si tous les groupes armés acceptent volontairement de déposer les armes et d'adhérer soit au processus des programmes désarmement, soit à la réserve armée pour la défense RAD. C'est ce que pense le chef du secteur de Walendu Piti, une région occupée à plus de 50% par les combattants de la CODECO. Pour Dieudonné Kpari, l'heure est venue pour les groupes armés d'accepter la main tendue du chef de l'État et de déposer les armes au nom de la paix. Il demande aux éléments de la CODECO de montrer à leur tour leur volonté de s'inscrire dans la voie de la pacification de l'Ituri.
Le message est clair aux éléments de CODECO. Ils doivent profiter de cette main tendue des chefs de l'État parce que c'est une approche non militaire qui contribue pour la paix sous le patronage de son excellence gouverneur ici en Ituri. La négociation est abordée avec tous les partenaires impliqués dans ce processus. J'ose croire que même s'il peut se faire dans mon entité avec les groupes armés CODECO.
Les chefs du secteur de Walendu Piti invitent toutes les communautés à la cohésion et l'unité pour donner une chance au vivre ensemble. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Territoire de Lubero, au Nord Kivu. Le bilan de l'attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le village de Mukoko a été revu à la hausse. C'est samedi, des sources de la société civile évoquent désormais une quarantaine de personnes tuées lors de cette attaque survenue mardi dernier dans cette localité. Les leaders locaux condamnent l'embuscade tendue par certains groupes Maïmaï aux équipes de sécurité qui tentaient de se rendre dans la zone pour des fouilles. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Ce samedi matin, les coordonnateurs de la protection civile de la zone descendue de Moussienene parlent des 45 corps jusqu'à retrouvés après les trois autres, dont un couple ramassé au village de Mapanga vendredi après-midi. Une équipe des soldats des FARDC de l'armée ougandaise UPDF envoyée dans la zone pour le fouille a été empêchée d'accéder au lieu du drame par un groupe de jeunes dits d'autodéfense retournés au niveau de Moussingiri. Esther Kavira Mounissa, femme leader locale, appelle ces jeunes à ne pas s'attaquer aux forces de sécurité dont la mission est de protéger la population contre les rebelles des ADF.
On a massacré la population, c'est des 45 personnes et jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé tous les corps. Jusqu'à présent, on est dans une grande peur. Maintenant qu'à l'armée nous tienne la main, aux défense locaux qui sont basés là-bas, de laisser les passages libres à l'armée UPDF et les FARDC.
Pour rappel, c'est depuis mercredi 15 janvier que les rebelles des ADF ont attaqué le village de Mukoko et ses environs, poussant ainsi les habitants à fuir leur milieu pour se diriger les uns vers la ville de Butembo, les autres vers Lubero Centre et Moussienene dans les territoires de Lubero. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Sécurité toujours dans la province du Maniema. La population continue à exprimer sa désolation face à l'insécurité persistante dans la ville. Chaque nuit, des incursions d'hommes non identifiés qui volent et violent les citoyens sont signalé. Lundi dernier, une vingtaine de bandits armés ont été présentés au gouverneur à la tribune centrale de Kindu. Écoutons le témoignage de Félix Awazi, l'une des victimes de cette insécurité. Il raconte son calvaire au micro de Florence Kizalunga.
Cette nuit du 16 janvier, on dormait, nous avons vu la présence de 12 personnes inconnues, dont il y avait une fille et 11 garçons. Quand je dormais, j'étais dans une chambre de l'extérieur, j'ai entendu un coup de marteau à la porte de ma grande sœur. J'ai entendu en train de crier ma grande sœur, oh les voleurs, les voleurs. Quand j'ai entendu ce cri-là, j'ai aussi crié, qu'est-ce qui se passe là-bas? En criant comme ça, ils ont aussi entré dans ma chambre, ils ont pris un téléphone marque Android, des téléphones et touches, un sac de l'école, 59 000 frais de souche aussi. Quand j'ai crié, alors ces gens-là voulaient aussi violer la sœur en question. Quand j'ai crié, alors les voisins sont arrivés. Malheureusement, ils n'ont pas pu attraper aucune personne. Donc nous demanderons aux autorités de la ville d'être souvent vigilants puisque ces actes se posent souvent dans notre quartier. Il faut qu'il y ait une sécurité suffisante pour que la population ne soit pas victime à tout le moment.
Nord Kivu, pour boucler ce chapitre, la cour d'appel de Tanganyika remet une fois de plus le parc national de Virunga dans ses droits concernant les terres de Nzulo dans les territoires de Masisi. Un nouvel arrêt rendu le 2 janvier dernier confirme en effet la décision de la même cour du 16 mars 2023, dit la direction de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Selon cette structure, cet arrêt lève les sursis d'exécution du jugement de mars 2023. Cependant, l'insécurité reste toujours un défi. Bernardin Nyangui.
Maintenant, plus rien n'empêche le parc national de Virunga de jouir de tous ses droits sur les 1100 hectares de terre qui revendique depuis plus de 3 ans un groupe de 5 personnes se disant représentants de la communauté locale d'Nzulo. Le directeur des relations extérieures de la Fondation Virunga, qui apporte cette précision, dit que la cour d'appel de Tanganyika, dans son arrêt de 2 janvier dernier, a entériné la décision du 16 mars 2023 confirmant le statut d'inaliénabilité de cet espace du parc au nord du village Nzulo. Cela, ajoute Méthode Baguro Boumoué, annule la décision du tribunal de grande instance de Goma de 2022 qui était jusqu'aujourd'hui utilisée par les 5 protagonistes pour revendiquer ces terres. La même décision rejette aussi la requête de sursis d'exécution de l'arrêt de mars 2023 d'un autre leader communautaire de Kamuronza. Cependant, Méthode Baguro Boumoué reconnaît que l'insécurité reste un défi pour l'exécution de cet arrêt. Alors que des démarches sont en cours pour une solution, il déplore une campagne de vente de lopins de terre dans cette zone faisant partie intégrante du parc, mettant l'économie en danger. Goma, Bernard Nyangui, Radio Kapi.
Au Congo central, les travaux d'aménagement du nouveau cimetière public de la ville de Boma, baptisé Lunga Vassa, se poursuivent. Financés par la mairie de Boma, ces travaux sont exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. L'autorité urbaine affirme que l'évolution est normale et que le cimetière pourra être ouvert au public au début de la semaine prochaine. Senghor Batouibi invite la population de Boma à s'approprier ces lieux d'inhumation. Le point avec Nana Pluriche Mambou.
Le nouveau cimetière public de la ville de Boma Lunga Vassa se situe au kilomètre 20 sur la route des Matadi et s'étend sur 31 hectares. C'est depuis le mois d'avril 2024 qu'il est ouvert au public. Quelques corps y sont même déjà inhumés. Mais la population avait arrêté d'inhumer parce que les sites étaient hors normes. Maintenant que les travaux d'aménagement du site sont en cours, le maire de Boma appelle à l'appropriation de ces cimetières par la population. Senghor Batouibi.
Jusque là, la population hésite encore. Nous voulons bien nous approprier ces cimetières, parce que c'est notre cimetière. La population doit donner de la valeur à ces nouveaux cimetières, au lieu d'aller dans les cimetières qu'ils ont.
L'OFD Boma qui exécute les travaux d'aménagement de ces nouveaux cimetières présente la fiche technique. Oscar Kondé, chef de brigade.
Nous sommes en train d'ouvrir les placets, mais aussi les parkings, afin que nous ayons l'accessibilité dans toute l'étendue que nous avons occupée. Et cela va nous aider pour que nous ayons les quartiers. Dans une semaine, nous allons finir.
Signalons que l'ancien cimetière Kimpungu 2, rempli l'année dernière, est déjà fermé au public. Matadi, Nana Purish Mambu, Radio Okapi.
Ces derniers temps, le prix de transport en commun a augmenté sur certains trajets de la ville de Kalemie. Nous sommes dans la province du Tanganyika. La cause en est le mauvais état du boulevard Lumumba, notamment au niveau de l'endroit appelé Lubongo. Cette partie de la route est délabrée en raison des inondations causées par des pluies rendant le passage des véhicules difficile. C'est un reportage de Paulin Munanga.
Le prix d'une course sur une moto est passé de 1000 francs congolais à 1500, voire 2000 francs congolais. Et celui d'un tricycle qui coûtait 500 francs congolais se fixe désormais à 1000 francs congolais. Les axes concernés vont notamment de la place Kisebwe à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, ou au niveau des quatre coins et d'autres axes se trouvant sur la rive gauche de la rivière Lukuga. Un conducteur d'un tricycle et d'une moto s'exprime. Il ne se passe pas une semaine sans que les roulements se détériorent ou l'eau pénètre dans la boîte de vitesse. Cette situation provoque des dépenses chaque semaine. C'est ainsi que nous avons pris la décision de revoir les prix des transports à la hausse. Beaucoup de propriétaires de tricycles refusent que leur engin passe par cette partie de la route qui est délabrée. Il y a hausse du prix des transports en commun à cause du délabrement de la route. Si l'on réhabilite cette partie de la route, le prix du transport va baisser. Signalons que des inondations à répétition sur le boulevard Lumumba à Kalemi, au niveau de l'endroit appelé communément Lubungo, poussent le gouvernement de la province à chercher une solution durable. Ainsi, il prévoit la réhabilitation de la route de déviation au quartier Kalumbi. Kalemi, Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi matin dans les rues de Bangui. Une marche organisée par la coalition Touadéra 2025, une organisation proche du pouvoir, pour demander au président centrafricain de se représenter à l'élection présidentielle de décembre 2025. Encadrée par la police, la marche est partie du monument des Nations Unies en passant par le rond-point des Marabena jusqu'à la place des martyrs. Les slogans sont différents, mais la détermination est la même. Le chef de l'État a beaucoup fait pour le pays, surtout pour la stabilité, pour la paix. On entame aujourd'hui un processus de développement. C'est pourquoi on lui demande d'en faire davantage, affirme Jean-Carlo Bonaventure, l'un des manifestants.
L'invité.
Face au regain de l'insécurité dans les grandes villes du Haut-Katanga, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi s'invite dans la recherche des solutions y afférentes. Pour Fulgence Muteba, la population doit se prendre en charge et collaborer avec les autorités pour combattre ces phénomènes. Pour lui, la sécurité est une responsabilité commune et il faut l'assumer. Monseigneur Fulgence Muteba est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
Monseigneur, de plus en plus, Lubumbashi ne respire plus. L'insécurité bat son plein, il y a un regain de la criminalité. En tant que leader religieux, qu'avez-vous à dire à ce propos?
Je suis horrifié et indigné par la montée de l'insécurité dans l'archidiocèse, principalement ici à Lubumbashi et à Likasi. Je condamne cette montée de l'insécurité et j'invite notre population à se prendre en charge en collaborant avec les autorités politico-administratives, avec les services de sécurité pour que nous puissions faire face à cette infamie. Parce que la façon dont les gens sont tués, eh ben, c'est vraiment insupportable. Et à ma connaissance, Lubumbashi, Likasi et les autres villes avoisinantes n'ont jamais connu un tel regain d'insécurité et de tueries de manière sauvage. Donc nous devons nous liguer tous comme un seul homme pour lutter contre cette insécurité. Il en va de la survie de tout le monde et c'est une responsabilité commune que nous devons assumer.
Nous savons que ces bandits, entre guillemets, se trouvent dans la communauté et dans cette communauté, il y a même certains chrétiens que vous encadrez. Un message à leur encontre.
Oui, la paix, c'est une valeur inestimable. Tout le monde a besoin de paix. C'est pourquoi nous devons nous mettre tous ensemble avec les services de sécurité, avec les autorités et même la justice, de telle manière qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse décourager ce genre de pratiques. Parce qu'une société où ne règne pas la paix, c'est une société où la vie n'est pas possible. C'est important et les chrétiens ont une responsabilité supplémentaire. Eh bien, partout où il y a des gens qui s'adonnent à ces pratiques animales et diaboliques, il est important qu'on puisse les dénoncer et qu'on travaille ensemble pour reculer cette insécurité.
Quelle pourrait être la piste de solution pour y mettre fin?
Pour y mettre fin, il faudra que chacun puisse bien assumer sa tâche. Ne laissons pas seulement aux services de sécurité la tâche de nous protéger. Si vous voyez quelque chose de suspect, que ce soit chez vous ou bien chez les voisins, il est important que vous puissiez alerter les services de sécurité de telle manière qu'on puisse décourager ce genre de pratiques. Mais pour nous, c'est vraiment étrange. On n'a jamais vécu ce genre de tuerie dans la ville de Lubumbashi ou à Likasi. Donc c'est pourquoi il faut qu'on se mette ensemble, qu'on travaille main dans la main avec les autorités de notre province, avec les services de sécurité, pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats qui arrachent la vie humaine de manière éhontée.
Ne pensez-vous pas que l'apport aussi de prélats catholiques peut être d'une grande importance dans les homélies et autres pour sensibiliser suffisamment la population pour qu'elle sache comment s'en tenir?
Effectivement, il y a un communiqué de presse que nous allons sortir dès la semaine prochaine où nous donnons des orientations à nos curés de paroisse, à nos catéchistes, à tous ceux qui sont au niveau de la base pour qu'on puisse se liguer tous ensemble, parce que le combat pour la paix, c'est un combat que nous ne pouvons gagner que si nous sommes ensemble. C'est important, effectivement, que nous puissions tous être impliqués dedans.
La population voudrait avoir un message fort.
Effectivement, nous devons savoir que la paix, c'est notre valeur partagée. C'est un patrimoine que nous ne devons pas perdre. Mettons-nous ensemble, parce que ces tueurs en série sont des gens qui vivent dans des quartiers. On les connaît, alors il faut les dénoncer. Il faut collaborer activement avec nos services de sécurité, avec nos autorités, pour que nous puissions nous débarrasser de ces individus qui viennent introduire une culture de la mort qui n'est pas notre culture. C'est important que chacun de nous puisse s'assumer en tant qu'habitant du Haut-Katanga, pour que s'il y a un moindre soupçon ou si on a, n'est-ce pas, des informations concernant des gens qui se livrent à ces pratiques inacceptables, qu'on puisse les dénoncer. C'est seulement de cette manière que nous pouvons venir à bout de cette tragédie.
Monseigneur Fulgence Moutéba, je vous remercie.
Je vous en prie.
Monseigneur Fulgence Moutéba était notre invité. Il était interrogé par Jean Gandou. Depuis la ville de Lubumbashi, ainsi s'achève ce journal. Mesdames, Messieurs, Pierre Diassinois a assuré la mise en onde. Jude Mister Bilanda à la coordination. Gisèle Cage à la présentation. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous.